Là, j'ai cherché de créer un plan parce que pour la politique en italien va dans tous les sens. Donc, la propagande et ses changements, pourquoi, quand et comment, une antipropagande, qui vers qui, et éventuellement des considérations que je laissais très ouvertes parce que je pense qu'il faut, chacun doit tirer les siennes. Là, le point de départ, surtout en ce qui concerne les études de nos étudiants, c'est toujours les stratégies de manipulation. C'est-à-dire, déjà là, on a un problème. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est Chomsky ou Timsit, dans le sens que Timsit a sans doute repris le relais du livre qui était déjà été écrit par Chomsky, encore un linguiste, parce que c'est vrai que Chomsky, monsieur Bontelila, que les Français n'aiment pas du tout, et bien d'autres sont toujours des linguistes engagés. La linguistique et la politique vont toujours ensemble. C'est vraiment, ils ont un lien plus étroit de ce qu'on croit. Et donc, quand même, le mérite de Timsit, si ce n'est pas lui qui les a définis, c'est d'avoir reformulé les 10 stratégies et de les avoir diffusées au point tel que, par exemple, en Espagne, si on va linker sur les stratégies de manipulation, on trouve plutôt le nom de Timsit que de Chomsky. Et les Espagnols croient beaucoup aux théories du complotisme, beaucoup plus que les Italiens ou les Français. Alors, on va chercher de délimiter le corpus de travail parce que les hommes politiques italiens, on en a nombreux. En principe, dans presque tous les pays, on a un président et un ministre ou quelque chose d'autre. Nous, on a même deux. Ministre adjoint, premier ministre adjoint. Et donc, juste pour voir, j'imagine que vous les connaissez tous, ce sont les plus connus. Et donc, on a Monsieur Berlusconi, Monsieur Salvini, Madame Meloni, on a Monsieur Conte. Je pense que c'est les moins connus. Il est entre guillemets le plus sérieux quand même, celui qui fait moins de spectacularisation. Monsieur Renzi. Monsieur Di Maio, encore Di Battista, lui aussi, maintenant, on l'a presque perdu de vue, et Grillo. Ils ne sont bien sûr pas dans l'ordre de leur présentation historique, mais d'un côté ou de l'autre, ils font tous partie d'une forme de communication, des formes de communication différentes. Une chose intéressante, c'est que par exemple, à part les archives des partis politiques, qui j'imagine tout le monde, dans tous les pays, on a, c'est l'université Rome 3 qui a créé ces formes d'archives. Il s'agit d'archives à partir de toutes les propagandes qu'on a trouvées après la Deuxième Guerre mondiale. Ils les ont classées et les ont mises en. Ok, publié.
Il 36% degli italiani ha già deciso di votare Forza Italia. Sembrava che le sinistre avessero già vinto. E invece si è riaccesa la luce della speranza che oggi è diventata un grande fuoco di passione civile. Se anche tu.
Là, c'est en 1994 encore. Donc, on a encore un style très sérieux, plus ou moins sérieux. De toute façon, Berlusconi a commencé à faire un changement de la communication et de la propagande, juste pour retenir quelques dates. Les premiers spots, les premières publicités ou propagandes politiques commencent en 1974, pendant le référendum de l'avortement. Et ce n'est pas à la télé, mais c'est plutôt au cinéma. Donc, quand on était au cinéma, dans les pauses, il y avait ces films très, très courts qui passaient. Pour et surtout contre la loi de l'avortement. Mais il faut attendre 79 surtout les élections européennes entre le 3 et 10 juin, parce que c'est la période quand, au fait, on commence à voir les émissions privées. Il y a un homme politique que je n'ai pas mis dans les images, mais qui a fait l'histoire et qui a aussi ouvert les portes à la propagande politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, et c'est M. Craxi. Parce que c'est à cause de lui qu'on a pu avoir toutes les lois qui ont privatisé les émissions, les télévisions, et donc on a aussi eu un pouvoir plus fort. M. Berlusconi a pu avoir un pouvoir beaucoup plus fort. Ensuite, en 93, on a les élections politiques. À 83, pardon, on a les élections politiques. Et pendant ces élections politiques, c'est la première fois qu'on peut parler de telle élection. Il y avait encore une Craxi, bien sûr, et on a commencé à voir plein de pubs. C'était plus une propagande. Avant, on avait des émissions. On avait des lieux où les gens se rencontraient, ils se disputaient, il y avait des débats. Les duels à la française que vous connaissez, qu'on a pris aussi des modèles américains, là maintenant, non. Là, on commence à voir simplement de publicité, voter pour nous, voter contre nous, c'est bien pour ça, ou c'est bien pour cette autre chose-là. Et en 1994, on a Forza Italia. Forza Italia est entrée dans la vie des Italiens d'une façon très... très surprenante, dans le sens qu'elle a créé un grand suspens. Parce que d'abord, on ne savait pas ce que c'était. D'abord, il y avait des grandes affiches, surtout en ce qui ne concernait pas la télévision. Parce que la télévision, bien sûr, la seule difficulté, c'était le prix. Donc, pour M. Berlusconi, ce n'était pas un problème. Il pouvait laisser passer tout ce qu'il voulait. Mais il a aussi utilisé pas mal d'affiches encore. Et donc, dans la rue, dans toute la rue d'Italie, il y avait cette belle image de famille, des familles, on dit en italien, les famiglie del Mulino Bianco, c'est-à-dire les belles familles à la campagne, tout très, très bien, les gens qui travaillaient, des maisons, des choses très, très belles, toujours des métaphores de football, parce que le football, c'est le dieu. Et donc, en faisant ça, il a créé une grande attente. À un moment donné, il a ajouté Forza Italia sur ses affiches. Bon, et Forza Italia, vous savez bien que c'est aussi ce qu'on dit quand il y a les joueurs italiens, gli azzurri. On dit tout le temps Forza Italia, on dit c'est quand même, parce que voilà, maintenant, voilà, vous voyez aussi pourquoi l'équipe italienne ne gagne plus. Ils n'ont plus de supporters. Parce que, en fait, ce Forza Italia est devenu un. On a cherché. Il y a des émissions où on entend les journalistes sportifs qui commencent à dire Forza, ils restent comme ça, et ils disent Italia Forza. Ils cherchent. Forza Azzurri, oui, on a changé. Et c'est vrai qu'en Forza Italia, il y avait une charge émotive qui vraiment poussait les joueurs là, une Forza Azzurri, Italia Forza, autre chose. Ça vraiment pas. Je pense que maintenant on s'est simplement renseigné, donc on accepte. Là, on accepte tout court. Mais c'est vrai que le fait d'avoir Forza Italia comme parti, et donc qui pouvait avoir de la publicité tout le temps, n'importe où, et avec une force et un pouvoir innombrablement plus écrasant par rapport aux autres partis, a apporté obligatoirement pas, parce qu'en Italie il faut voir qu'est-ce que c'est obligatoire, mais quand même il y a eu il decreto Gambrino, où il y avait aussi le garant de la légalité qui a cherché à mettre des limites à la possibilité de faire de la propagande n'importe comment, n'importe quand, etc. Et donc, on a cherché à donner des bornes qui n'ont pas tenu longtemps, parce que déjà, au début des années 2000, on avait Internet. Et donc, Internet n'a pas de loi qui l'oblige vraiment, parce que chacun peut écrire ce qu'il veut. Déjà, dans les années 2000, c'était moins dur, parce que si vous voulez, les années 2000, il n'y avait que les sites. Donc, il y avait quelqu'un qui achetait de l'espace, il faisait mettre des informations. Plus ou moins, c'était assez strict. Ce n'était pas comme un livre imprimé, mais on pouvait retrouver presque toujours les choses qu'on avait écrites, au moins la veille. Là, maintenant, c'est à partir de 2004-2005 qu'on a le blog de Grillo. Et Grillo, c'était quelqu'un qui a donné beaucoup d'espoir aux Italiens et beaucoup de désespoir aussi, en même temps. Et donc, avec son blog, il a complètement changé la façon de faire de la propagande. Parce que chacun... Avant, il y avait... Bon, Facebook, je pense que ça remonte toujours aux années 2000, plus ou moins.
2004,
oui. Moi, je me rappelle qu'on me demandait d'avoir mon compte en 2007-2008. Mm-hmm. Et je disais, non, jamais dans ma vie. Ça n'a pas duré longtemps, bien sûr. Parce que les étudiants, parce que le travail, parce que maintenant, tout semble travailler sur Facebook aussi. Mais donc, du blog, on est passé à Facebook et tout le monde ouvre des comptes, et un nombre incroyable de comptes. Et la politique a encore changé avec M. Salvini, même elle avait changé bien avant, mais avec lui, vraiment, c'est bien évident parce qu'il il utilise ce que lui-même, il appelle la bestia. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, bon, pour le blog de M. Grillo, je peux passer parce que tout le monde les connaît. Bon, je vous les montre juste. Alors, le blog, c'est ça, c'est normal, c'est presque un site. Simplement, la chose intéressante par rapport à un site qui peut mettre des petites informations jour par jour. Et surtout, il n'a pas la structure plus stricte et sérieuse d'un site. Parce que l'idée, c'est toujours celle de s'approcher le plus possible au peuple, que le peuple puisse parler, dire et faire d'autres choses. Je ne l'ai pas marqué parce que ce n'est pas, pas rentré dans les mouvements les plus, connus d'Italie, mais avec Grillo, à côté de Grillo plutôt, il y a eu d'autres formes de partis. Et de manifestations, de mouvements qui naissent du peuple. Et la chose intéressante ou quand même bizarre, c'est qu'il y a aussi des gourous, ou soi-disant gourous, des gens qu'on considère des maîtres spirituels qui ont décidé de scendere in campo, comme disait Berlusconi. C'est-à-dire, on a par exemple... le mouvement Italia ou d'autres mouvements qui ont l'intention de réunir tous les gens qui font de la méditation, qui cherchent à améliorer. Bon, la finalité devait être une très bonne finalité, c'est-à-dire celle de mettre les gens qui veulent une croissance collective tout ensemble. Mais les égoïsmes personnels, je pense qu'ils ont eu la mieux parce que les mouvements ont complètement disparu. Et il y avait Salvatore Brizzi. Et lui, il a travaillé pas mal. Il a fait quelque chose de très qui n'était pas trop mal. Mais au fait, comme pour Beppe Grillo, on sait bien qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière. Derrière Brizzi, il y avait Armando Siri. Et donc, toujours des politiques et des dynamiques qui n'ont pas vraiment quelque chose à voir à la spiritualité, mais plutôt à d'autres intérêts. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, c'est le premier qui l'a dit, non, ça suffit, je m'arrête. Et il a presque disparu. Lui, on le connaissait beaucoup dans... Il avait toujours des vidéos qu'il montrait tout le temps. Et là, par contre, on le trouve très, très peu, très rarement. Parce que, bon, la politique, c'est un petit peu comme ça. Ça monte et ça baisse directement. Bon, pour Beppe Grillo, vous savez, pour les Français, je pense que ça rappelle un petit peu Coluche, l'histoire de Coluche. Lui, il est encore vivant. Beppe Grillo, à l'instant, il est encore vivant. Mais politiquement, il est mort parce qu'il est disparu. Il y a encore, mais on l'entend très très peu. Et surtout, il a fait une faute de communication très grave. Parce que quand il a commencé à avoir son blog, parler aux gens, aller dans les places, tout le monde a bien aimé ça. Et on l'aimait beaucoup parce que lui, il a toujours été un comédien qui faisait de la politique. Il l'a toujours fait. Il a eu pas mal de difficultés. Il pouvait pas aller à la télévision parce que il faisait de la politique. Donc on le trouvait très cohérent. Mais il a fait la faute de crier. Il criait tout le temps contre tout le monde. Et quand on a besoin de certitude, quand on a besoin de, on veut quelqu'un qui puisse se rassurer de quelque manière. On veut pas quelqu'un qui nous gronde parce qu'à un moment donné, il va gronder sur tout le monde. Et donc, on comprenait plus rien. Et c'est sans doute avant même, mais c'est à partir de son blog et des anti-blogs, parce que bien sûr, l'un apporte les autres, que le mouvement, parce que c'est vraiment presque un mouvement de canular, ont commencé sans arrêt. Et c'est la forme la meilleure pour faire une propagande et anti-propagande au même moment. Parce que et ça joue le bon tour pour tout le monde. Parce que le fait que je ne sais pas où se trouve la vérité, ça arrange tout le monde. Ça arrange la droite, ça arrange la gauche, parce que les gens sont dépaysés. Une fois qu'on a des gens qui sont dépaysés, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est la manière la plus pratique. À ce moment-là, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'il y ait une propagande de Monsieur Le Tel contre Monsieur Le Tel. Je pense que c'est la propagande de Monsieur Le Tel et de Monsieur Le Tel contre les gens. C'est la chose la plus simple, parce qu'il faut vraiment les confondre. Selon qui je vais
Robot
couper.
sono sistemi automatizzati che twittano o pubblicano su Facebook. Quindi io apro un account di Facebook e gli dico: io non ho tempo di seguirti. E quindi cosa succede? Che io posso automatizzare migliaia di account di Facebook o di Twitter e dirgli tutte le volte che c'è l'hashtag che dice questa cosa, ad esempio Noius Solis, che è un caso, ritwittami e ripubblica su Facebook tutti i contenuti riguardanti Noius Solis. Automaticamente.
Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un hacker, c'est Alex Orlowski, et c'est aussi celui qui a fait Water on Mars. Et donc, lui, il est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est la bestia de Salvini. Bon, en plus, pour les Italiens, c'est très rigolo parce que déjà, Monsieur Salvini, il n'est pas petit, donc il est grand. Il n'a pas des façons de faire très, très gentilles souvent. Et donc, on imagine. Voilà, on pourrait même. La bestia, la traduction. Voilà, la traduction de la bestia et la bête. Donc, mais là, c'est Salvini même qui l'appelle la bestia. Parce que c'est sa bête à lui. Et au fait, c'est un bot, on l'appelle bot, parce que ça vient de robot. Et c'est un système d'analyse de tous les sites. Les sites, les comptes Facebook, les comptes Twitter, tous les sites sociaux possibles qui existent. Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse tous les mots-clés, il les enregistre et puis il renvoie le lien de façon telle qu'on puisse linker plusieurs fois. Et à un moment donné, on voit qu'il y a des gens qui. Il y a des informations qui sont toujours en vue, en première page.
Quello che succede è il fatto di pensare che c'è una grossa massa di persone che la pensano così.
L'objectif, bien sûr, et celui-là de faire penser que la plus grande partie du monde a son idée à lui. Donc, l'idée du peuple et son idée, ça correspond. Ça fait aussi partie du populisme qui est à la base de son mouvement. Et ce n'est pas un hasard qu'ils ont choisi un pistolet. Dans la suite, vous allez voir.
Lo sapete che ormai la comunicazione politica passa soprattutto attraverso la rete? Nel mondo siamo quasi 5 miliardi di persone ad essere interconnesse, 43 milioni in Italia. Ciascuno di noi trascorre mediamente 6 ore al giorno su internet. Internet ha doppiato la televisione e la politica ha capito subito che la rete poteva orientare il consenso.
Allora, on est 43 milioni di persone. Et on passe pour la plupart 6 heures sur Internet par jour. Et la chose intéressante, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les discours qu'on faisait dans les places ont été remplacés par la télévision. Internet a remplacé la télévision. Et maintenant, la communication a totalement changé.
Molto Internet sulla politica?
Pesa in questo momento tanto. La percezione anche su quella che è l'influenza a livello giornalistico. Molti giornalisti e le testate si fanno influenzare direttamente da quello che succede su internet, senza controllare se la notizia sia vera o l'appoggio che arriva dagli utenti a un certo politico o a un certo partito sia reale o no. La bestia è un nome.
Vous avez vu, pour la plupart, c'est ou Twitter ou Facebook. Et les journalistes, quand ils publient leur information, ils ne se rendent même pas compte si l'information est correcte ou pas. Ils ont une information, ils la publient. On ne fait pas un contrôle. Et c'est quelque chose que de plus en plus, nous aussi, on fait. Parce qu'il nous arrive des informations, on est choqué. Là, on est pris vraiment par l'émotionnel plutôt que le rationnel. Et on a l'attitude de renvoyer tout de suite, de retransmettre l'information sans contrôler si l'information est véritable ou pas. Et donc, on participe, nous aussi, à cette forme de propagande.
Ha dato Luca Morisi, che è lo spin doctor digitale di Matteo Salvini, che da molti anni, circa penso dal 2015-2014, lavora con lui, quando già in tempi non sospetti incominciarono a installare dei sistemi di mass mailing e a controllare quello che erano le reazioni sulle reti sociali verso i comunicati e i post di Matteo
Twitter,
Salvini.
Twitter, Facebook. Ma avete capito che cos'è la bestia? È un sistema che controlla le reti sociali di Matteo Salvini e analizza quali sono i post e i tweet che ottengono i risultati migliori. Ecco perché il leader della Lega è sempre in sintonia con gli umori prevalenti dell'opinione pubblica.
Io seguo Salvini.
Però ma non sono 3 milioni?
Probabilmente sono 3 milioni di persone che comunque. Ci sono anche gli stati esteri, alla fine saranno circa 2 milioni, ma secondo me più o meno la metà sono italiani che semplicemente lo seguono per vedere quello che dice.
Allora, Salvini dit toujours qu'il y a 3 milioni di persone che lo suivent. Mm-hmm. E donc c'è un chiffre enorme. Ma parmi ces 3 milioni di persone, il y a une bonne partie qui le suit de l'étranger. Et encore, il y a une autre chose, c'est-à-dire que la moitié des gens qui le suivent pour regarder qu'est-ce qu'il dit, mais pas parce qu'ils le suivent, déjà. Mais à travers ce système, il peut faire semblant que tout le monde le suit.
Des posts de personnes qui ont dit « Io sono uno dei 3 milioni, ma sono contro Matteo Salvini. » Su 43 milioni di persone su Facebook, non è neanche tanto. Ne avesse 20 milioni, capirei.
Et donc, il fait une proportion très simple dans le sens, on a 43 millions de personnes qui utilisent Facebook, 3 millions et en plus, la moitié ne le suit même pas, contrôle simplement ce qu'il dit. Et ce n'est pas beaucoup. 20 millions, ce serait déjà un chiffre étonnant.
Nel mondo della rete, più like per un politico cresce di popolarità, ma i like possono anche essere fabbricati.
In Italia abbiamo due casi che sono questi, è quello della falsa percezione, quindi di portare l'elettorato che non vorrebbe diventare estremista o appoggiarsi sull'odio, viene sdoganato. Cosa succede? Nel momento in cui tu c'è quello che noi chiamiamo un atteggiamento negativo, che è nascosto, che tu non tiri fuori perché non vuoi dire che sei omofobo, perché non sta bene nella società, non vuoi dire che sei razzista, di colpo ti dicono no, se io odio gli altri che vengono da un altro paese, non sono razzista. Capito? Non sono razzista, semplicemente non li voglio. Quindi già stai sdoganando un incitamento all'odio razziale. Poi c'è una cosa che...
Allora, là il y a la strategia pour laisser passer les choses qu'il ne faut pas dire, les tabous, ou les choses, ou des, quelque chose qui c'est un viol vers la, les valeurs. Par exemple, tout le monde sait que ce n'est pas correct d'être raciste ou d'être homophobe. Mais alors, il ne faut pas le dire. Le fait qu'il ne faut pas le dire, ça ne veut pas dire que les gens ne le pensent pas ou qu'ils ne le sont pas. Et, mais jusqu'à maintenant, quand on le faisait voir, on le démontrait, il y avait toujours quelqu'un qui était choqué, qui répondait, il y avait des réactions. Les gens étaient, de quelque manière, ils répondaient à la manière principale, ils rentraient à la valeur. Par contre, là, on fait passer le fait, on dit exactement, on va dédouaner le tabou, comment ? En disant que, non, moi je ne suis pas raciste, simplement je ne veux pas les gens qui viennent chez moi. C'est autre chose. Et donc, je ne veux pas les gens qui viennent chez moi parce qu'on n'a pas assez chez moi. Ou encore pire, ce qui s'est passé entre Italie et France et qu'on a risqué pas mal de... d'accidents diplomatiques. Ah non, pourquoi nous, on doit accepter les étrangers alors que la France ne veut pas? Alors que l'Allemagne, on a pu plus dire que l'Allemagne ne voulait pas parce que Angela Merkel a accepté pas mal de personnes de l'autre côté. Donc, ils se sont arrêtés contre l'Allemagne. Mais alors, la France est devenue vraiment le point de référence alors que il y avait, il y a ce double, ce double truc entre les Français et les Italiens, politique et non, parce que vous savez que bon, Salvini, bien sûr, il est très lié à Marine Le Pen, et donc il soutient sa politique d'un côté, et de l'autre côté, il dit non, mais les Français se comportent très mal. Donc, ils se comportent très mal contre nous, ils se comportent très mal contre... Et alors, d'un côté ou de l'autre, on a pas trop clair qui est l'ami de qui.
È cambiato, che non sono il numero di like che convincono l'elettore, è il fatto che le persone che sono contrarie a questo pensiero vengono costantemente attaccate da gruppi di utenti e di account che attaccano in maniera anonima queste persone.
Ci può far vedere qualcosa?
Ti faccio vedere un sistema di analisi che utilizziamo.
C'est ce qui s'est passé à mon ordinateur. Donc, non, le problème, donc, c'est pas parce que la question était est-ce qu'on peut piloter les likes? Est-ce qu'on peut faire de manière telle qu'on ajoute? Ce qui n'a pas changé, c'est la quantité. Le fait d'avoir beaucoup de likes, ça ne change pas par rapport à la manière. C'est-à-dire, si je suis contraire, et ça m'est arrivé aussi, hein, je publie en principe, j'évite de publier tout ce qui concerne la politique exactement parce que je pense que je ne veux pas leur donner de la publicité. Mais il y a des informations qui sont vraiment incroyables et qu'il faut s'indigner. Tout simplement, il faut s'indigner. Et à un moment donné, si vous essayez de publier n'importe quelle information, tout de suite, il y aura quelqu'un qui vient vous dire le contraire, il vient vous attaquer. Et on attaque. Là, bon, j'ai pas une responsabilité, j'ai pas un rôle et tout le reste, donc j'ai pas beaucoup de followers, donc j'ai pas de problème pour moi. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a des objectifs différents, il est attaqué pas seulement par des personnes qu'il connaît, mais surtout par des systèmes et des personnes qu'il ne connaît pas, par des anonymes. On fait ce que lui il dira tout de suite après, uno squadrone digitale, c'est-à-dire une équipe militante numérique qui sert pour détruire les informations ou les ou encore pire, les utiliser pour.
Siamo molto semplice su Twitter. Questi qua, come vedi, era l'hashtag Noi con Salvini. Vediamo Matteo Salvini al centro, ovviamente è di quello di cui stiamo parlando, Matteo Salvini Mi. E qua vediamo che, ad esempio, questo punto grande è la Lega Salvini, che ovviamente cattura molte interazioni perché è il suo partito. E qua vediamo un'altra macchia, questo grappolo. Questi qua sono un gruppo di persone che non è d'accordo con Salvini. Ma come vedi è un punto che catalizza, incominciano a parlare e vanno a interagire con la Lega. Questi sono i supporti.
Allora, là c'è l'algoritmo degli IA qu'on peut générer à travers les connexions avec ce bot qui fait toujours le contrôle et l'analyse. Et c'est l'analyse du site de Salvini. Salvini, donc il y a bien sûr la partie la plus grande, c'est la partie qui concerne son parti, c'est normal. Puis il y a une autre partie, quand même, est assez intéressante et assez grande, et c'est la partie des gens qui sont contraires. Et même s'ils sont contraires, ils vont contrôler, ils participent à la numération finale. Mais il y a une autre partie encore plus intéressante. Alors, cette partie, elle est éloignée, elle est d'un autre côté.
Qui cominciamo a vedere un gruppo che è molto distante come interazione e viene catalizzato da un solo nome. Questo gruppo che tu vedi, distante, sono tutti americani o presunti americani, e sono tutti esponenti e supporter di quello che è Turning Point o la NRA, National Rifle Association, che è
l'associazione delle armi.
L'associazione delle armi americana, Steve Bannon, sono legati alla vecchissimo KKK, molto razzisti, si considerano 100%, 100% ariani bianchi, supremazisti bianchi.
Tutto quel...
E dunque, ce groupe-là, c'est un groupe qui est fait pour la plupart que d'Américains. D'Américains, mais pas des Américains n'importe lesquels, les Américains qui sont liés au système des armes, donc aux entreprises qui gèrent les armes, ou encore les Ku Klux Klan, donc les 100% aériens.
Quel movimento fa crescere nel like, nella interazione, il tweet di Salvini, certo, che diventa
trend
topic.
Lo stesso lui.
E sì, ce movimento là fa grandire le chiffre. E donc on arrive a 38% a travers les gens qui ne l'aiment pas et les gens qui le soutiennent de l'étranger. Et c'était intéressant de souligner le lien entre l'entreprise, la lobbying, au fait, c'est une véritable lobbying des entreprises des armes, et le fait qu'en Italie, on vient de faire passer la loi sur la légitime défense. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir d'un côté très... très distants l'un de l'autre. Bon, il va continuer, il va aussi mettre en évidence le lien avec d'autres. Une Italienne, c'est Alena Mastrangelo, qui, au fait, elle est d'origine italienne, mais qui soutient 100% ariens. Et c'est aussi bizarre parce que les gens qui soutiennent 100% ariens, en commençant par Hitler, ne sont pas ariens. C'est la chose la plus intéressante. Vraiment que c'est vraiment l'inverse de ce qu'ils disent. Et puis qu'il faut aussi faire très attention parce qu'il y a des petits signes comme des grenouilles, comme un N, comme une croix à côté des profils, à côté des comptes pour indiquer si le croix, par exemple, indique qu'il a été banni parce qu'il a écrit des choses raciales. Le haine, c'est comme le Nazareno. Donc, aussi Meloni, Madame Meloni l'utilise, mais elle l'utilise pour se dire qu'elle est croyante, elle est fidèle et tout le reste, alors que quand on le met souvent pour indiquer que c'est quelqu'un à éliminer. Et donc, d'autres... Et bien sûr, toute cette forme de propagande immense ne peut qu'engendrer aussi une anti-propagande. Émissions, il y a les émissions satiriques, les débats politiques, les films et Internet. Alors, nous, on a connu surtout les émissions satiriques, en commençant par les émissions de Grillo, mais un comédien qu'on a oublié et qu'on a même ignoré vraiment d'un point de vue politique, et pourtant il a dit des choses très, très vraies déjà à l'époque, surtout si on le contextualise pour le temps, c'était Pippo Franco. Pippo Franco, c'est un comédien, franchement, pour les Italiens, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais pris en compte. Et pourtant, il a dit des choses qui, après 20 ans, 30 ans, étaient vraiment très intéressantes. Mais toutes ces émissions, à fur et à mesure, ont été effacées. Là, maintenant, on a de la communication, on a pas mal de comédiens qui restent ou restent dans les émissions pour un programme spécial. Je pense, par exemple, à Crozza.
E quindi buonasera. Un bacione sì. A tutti coloro che mi seguono.
Sì, buonasera,
un bacione a Saviano,
quella.
Un bacione alla Boldrini, a Fazio, Boldrini. La Gruber. Quindi sono tutte persone con un cuore che batte forte,
sicuro?
Al cui battito unisco anche il mio.
Sì?
Vi lobbo.
Ma che vi lobbo? È sicuro di sentirsi bene? Perché...
mai stato meglio,
sì,
tutto primavera, e quindi
sì.
Scatta l'ora legale,
sì,
un'ora di luce in più,
sì.
Per guardare il volto di chi ci ama e amiamo, cinguettano
prende?
Gli uccellini,
sì.
I passerotti,
sì.
I cicognini,
i aironi,
ecco. Sì. Gli albatrossini,
sì,
i rondinini che migrano,
sì.
E che noi accogliamo con le nostre braccine aperte,
sì.
Come aperti sono i nostri porti, dove
cosa?
Le navi cullate dalle onde dell'amore.
Cosa
attraccano al molo della fratellanza,
gettando
l'ancora del sorriso.
Scusi,
e noi qui
sì, quindi l'amore ha cambiato forte, no? Lei che dice porti aperti col cuoricino,
i porti sono
sì.
Un'eccellenza tutta italiana,
sì.
E quindi vanno valorizzati, vanno apprezzati per attirare più migranti, magari con gli animatori che all'arrivo mettono al collo le ghirlande, offrono un cocktail di benvenuto, fresco, ananas, pera,
sì.
Pesca,
cosa?
Albicocca, mi dispiace, è finito, se vuole c'è ace.
C'è l'ace,
perché,
no, capito, ma è innamorato forte Salvini,
d'ora in poi
completamente...
salveremo tutti,
salveremo tutti. È meraviglioso vederla così, per carità, guardi...
E quindi grazie
sì.
Alla meravigliosa flotta delle nostre ONG, comandate da Frode Casarini, con quella bella barba da Capitan Findus che infonde sicurezza.
Casarini,
e poi insieme a tutti i naufraghi andiamo a vedere Dumbo,
coi naufraghi.
Che ci fa ritrovare l'innocenza del bambino dentro di noi.
Addirittura,
bambino
sì.
Al quale diamo senz'altro la cittadinanza.
Sì, anche a quello
dentro
che
di nasce
sì.
Qui ne ha diritto, sia
sì.
Egiziano, coreano,
sì.
Napolitano,
a tutti.
Africano,
napolitano.
Con la proboscide,
sì,
con le orecchie grandi che lo fanno
sì.
Volare.
No, bene,
e quindi...
Sì, sì, no, ma senta un attimo, però possiamo lasciare un attimo bacioni, perfetto, lasciamo un attimo Dumbo. No, una cosa di attualità, lei ha definito quelli di Confindustria gufi. No.
Bacioni a Confindustria.
Addirittura, anche a Confindustria.
La parte sana del paese,
sì.
Quella che crea lavoro,
sì.
Che rischia investendo,
certo.
Che affinché l'Italia prosperi, veglia anche di notte con gli
sì.
Occhi spalancati,
sì.
Proprio come i gufi.
Come
e quindi
ecco perché.
Bacioni anche a Renzi, che prima ha usato questa espressione. Complimenti, bravo, applausi. Accademia della Crusca,
sì,
riconoscimento, medaglia, Coppa del Nobel, Dumbo.
Dumbo, va bene.
Coppa del Nonno, che ti ringrazio.
Guarda, veramente, ma non è più lei, non è, l'amore l'ha completamente trasformata Salvini. Io non...
L'amore
sì?
E quindi, uno sì. dei principi cardine della Costituzione, scritta sì. dai padri costituenti, sì. padri e madri,
sì, costituenti. Che
però sì. non sono l'unica forma di famiglia possibile.
Sì. Chi li ha scritto?
Franceschina,
la sua fidanzata.
Le mando dei cuoricini,
sì, vabbè, adesso...
le mando bacioni speciali,
sì, no,
le mando
sì.
faccine allegre.
Vabbè, adesso, vabbè, è bella
non
questa...
ci possiamo vedere.
Ah, non vi potete vedere.
E quindi, quindi
ecco.
la nostra notte di fuoco è rimandata.
Aia. Vabbè, succede, cioè, avrà un impegno.
E quindi
sì.
se ne riparlerà.
La
Russia
ha messaggio di Sanovel
Piazza. A Parigi.
Ah, lei deve andare a Parigi.
Lei della Salvini. Francia, noto paese.
Certo.
Pieno di negri.
La frase no, no,
no,
anche la frocia di negri. Ma no. Oggi possiamo sparare,
no,
non appena dentro il confine, perché è casa nostra.
Come sa fiancé lui a dit che, alors, avant, je sais pas, parce que, en fait, Monsieur Salvini a fait encore une autre chose, déjà Berlusconi l'avait faite, c'est-à-dire mettre en place aussi sa vie privée. Une chose que les hommes politiques ne faisaient jamais. Nous, on a eu Andréotti, je ne sais pas plus pour combien de temps, on ne savait presque pas qu'il était marié. On a dû attendre le film Le Divo pour savoir, pour donner un visage à sa femme. Alors que pour Berlusconi, on a tout su. Et pour Salvini, encore pire, parce qu'on sait tous les détails de tout, surtout sur sa vie privée et sa famille, alors que lui, il soutient tout le temps qu'il faut avoir une famille père, mère, à... et rien d'autre pour toute la vie. Là, il pense qu'il a déjà deux anciennes femmes et trois enfants de trois femmes différentes, quelque chose comme ça. Mais bon, et là, toute la première partie, c'est lui qui est amoureux de cette nouvelle fiancée, en plus la fille d'un des hommes politiques qu'il a vexé tout le temps, jusqu'à il y a quelques mois. Et elle lui va lui envoyer un message, jusqu'à quand elle va lui envoyer un message, des cœurs, des émoticônes, de joie et tout le reste, mais elle va lui dire non, on ne va plus se voir, ou comme moi, même ce soir, on ne va plus se voir. Et il revient, le Salvini qu'on connaît, donc contre la France, on peut tirer sur tout le monde, maintenant on a la loi, donc on va tirer sur tout le monde.
Casa degli italiani, tutti tranne quelli egiziani,
ma no, ma appena detto
ragazzini
prima...
saccenti con il loro modo di fare, si istigano al bullismo, fiancheggiati
buca...
dalle varie cellule terroristiche, quali Fazio,
no,
Saviano, Budrini,
ma
Gruber,
ma
per l'ultimo...
Quello...
Fazio, Saviano, Gruber sono tutti des animateurs, des émissions qui font de la politique.
Sgorbio della natura perché
no.
frutto di accoppiamento tra immigrati fuori dal matrimonio
no.
che risponde al nome di Dumbo
no. Buonasera Salvini
no, tendete,
quindi se ne riparlerà chissà
sì.
quando
vabbè ma tanto
di froci
ma no ma adesso non
e anche di froci negri
ma no
e quelli da oggi possiamo sparare
no, ma...
non appena dentro
ma
il confine
no,
perché
so...
è casa nostra
ma
la so... casa degli italiani tutti tranne quelli egiziani
ma no ma appena detto
ragazzini
prima
ragazzini saccenti con il no. loro modo di fare che istigano al bullismo
wow,
solo perché
fiancheggiati dalle
varie
cellule terroristiche quali Fazio
Saviano
ma no ma lo sgorbio della natura perché frutto di accoppiamento tra immigrati fuori dal matrimonio
No.
che risponde al nome di Dumbo.
No.
Et puis, alors, mais à l'exception de ça, finalement, il n'y a plus de véritables émissions satiriques. Il y en a plein qui ont disparu et qu'on ne fait pas. Les débats publics, on en a encore à la télé, mais sont très, très peu suivis. Toujours pour déjà au début parce que ils ont pris la même habitude, la même mauvaise habitude de Beppe Grillo, c'est-à-dire il criait tout le temps et les gens le permettaient. Il y a Michele Santoro que c'est un animateur, un journaliste politique qui a fait plein de ces émissions-là et lui c'est le premier qui l'a donné la possibilité, il a légitimé les cris à la télé. Et au début, tout le monde l'aimait parce que c'était vraiment comme si on pouvait renverser sa haine, sa passionnalité, tout ce qui n'allait pas bien dans ces émissions-là. Mais à un moment donné, comme il n'arrive jamais à rien, les gens se sentent frustrés. Ils suivent plus, ils n'aiment plus parce que c'est toujours la même histoire et tout le reste. Donc ils ont compris, ils ont cherché à redéfinir le programme, mais désormais il y a Internet. Donc si je veux voir un sketch, une partie ou un débat, je vais le voir sur Internet, la partie qui m'intéresse de ce point à l'autre point, et je limite beaucoup. Et même les films, on en a eu pas mal. Alors, je fais un pas à l'arrière, juste pour l'image qu'on a à l'extérieur. Déjà, Berlusconi nous avait donné une très mauvaise image. Mais alors, c'était simplement le tombeur de femme pour la plupart, ou le gaffeur. Mais c'était pas... Alors que Salvini, vraiment, il est arrivé au-delà de toutes les limites. Et là, c'est le carnaval de Düsseldorf, où il y a Salvini qui nourrit d'un côté le racisme et de l'autre côté le nationalisme. Et le regard à l'extérieur, c'est-à-dire, bon, j'ai évité tout ce qui était dit par Berlusconi ou d'autres personnes, mais là, c'est juste une des dernières informations. Quand il y a eu l'attentat en Nouvelle-Zélande, Salvini se disait, bon, je suis simplement préoccupé que c'est du terrorisme islamique. Il banalise tout. Tout ce qui est à l'étranger, c'est de la banalité énorme. Et toujours pour anti-propagande, il y a des choses qu'il met, qu'il souligne, c'est-à-dire, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est quand je n'ai honneur, il y a l'image de deux enfants. Il y a l'image de deux enfants, le premier qui pleure tout le temps parce qu'il dit que quand il naît au nord, il sait qu'il doit travailler pour donner à manger au sud. Alors que quand on est au sud, on est content parce qu'on sait qu'il y a le nord qui travaille pour nous. Alors là, c'est la propagande, bien sûr, l'antipropagande vers le sud que monsieur Salvini, ça fait un siècle qu'on fait cette propagande-là. Moi, je suis florentine. Mais je suis bien contente d'être méridionaliste tout court, et je le serai à jamais, parce que il y a une façon de vivre et de bouger qui est complètement différente. C'est vrai qu'il s'agit de deux peuples différents. C'est vrai qu'il a fallu 100 ans pour détruire et créer de la pauvreté partout, mais les ressources qu'on a vont toujours revenir d'un moment à l'autre. Et lui continue. D'abord le Nord, ou encore là, c'est pour l'attentat qu'il y a eu. À quoi bon qu'un immigré fait un attentat si après il y a un Égyptien qui va sauver? Donc, il était détruit par l'information que c'était l'Égyptien qui avait sauvé le public. Et là, encore sur Facebook, on peut trouver... Quatre choses qu'on n'a pas idée de comment elles sont finies là-bas. Donc, une voiture sur les toits, c'est bizarre. Un cheval sur le balcon, ça va. La voiture sur l'arbre encore. Mais la ligue dans le sud, et là, c'est la Basilicate, c'est vraiment impossible. C'est vrai que c'est... je pense que... À l'instant, plus qu'à en vouloir aux gens du Nord, c'est les Italiens du Sud qui en veulent aux Italiens du Sud qui ont voté, parce qu'on ne se rend vraiment pas compte comment c'est possible d'un côté. De l'autre côté, c'est normal, parce qu'il y a tellement une propagande tellement forte et contre tous et tout le monde, que finalement, toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, on espère qu'il soit le sauveur. Donc, on l'a cru pour Beppe Grillo, on l'a cru pour... on l'avait cru même pour Berlusconi, la première personne qu'on croyait. Mais Berlusconi, quand même, il avait une allure de réussite. parce que c'est vrai que lui, il savait rien de politique, mais c'est vrai qu'il avait géré des entreprises. Quand il est arrivé, les gens l'ont voté convaincu qu'il pouvait sauver l'Italie. Déjà, à l'époque, l'Italie ne devait même pas être sauvée. Mais maintenant, peut-être que oui. Mais convaincu parce qu'il avait le pouvoir. Ce qu'il n'a pas tenu compte, c'est que au fait, ce n'est pas un problème de l'Italie. C'est un problème de l'Europe. Dans la vidéo que je n'ai pas terminée avant, on l'explique très bien. Le problème, c'est que l'Europe toute, elle a des influences de l'étranger, notamment des États-Unis, mais encore plus de la Russie ou de la Chine, etc., qui aiment bien qu'on soit tous séparés. Pourquoi créer tellement de propagande Italie contre France? Parce que c'est très connu que l'Italie et la France ont toujours été des alliés. Et donc, les séparer, ça aidera à rendre l'Europe plus faible, le plus faible possible. Et là encore, c'était le fait qu'il y a qu'on a nommé comme chef de la Ligue en Calabre un monsieur Invernizzi qui est bergamasque, donc du Nord, et ne s'est jamais mouillé dans la mer de Calabre, mais surtout qu'il est contre les Calabrais, il est contre les gens du Sud. Donc i terroni calabresi sono incapaci, devono solo stare muti e obbedire. Donc c'est vraiment la chose la plus incroyable. Terroni, c'est, je ne sais pas en français non plus, c'est, voilà. Et de la Calabre, ils sont des incapables, ils doivent simplement rester muets et obéir. Donc c'est très bien d'avoir quelqu'un qui les commande comme ça, qui les gouverne de cette manière-là. Et alors là, il y a Crozza, bien sûr. Les Iènes, c'est un programme une émission qu'il y a encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas une émission tout à fait politique, c'est plutôt une émission sociale. C'est une émission de dénonce de ceux qui arrivent. Elle est toujours sur les chaînes de M. Berlusconi. Et je ne le suis pas trop, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il y a une véritable dénonce ou jusqu'à quel point les dénonces qu'on fait ont des résultats. Parce qu'il y a aussi une autre forme de propagande, c'est la propagande de faire semblant qu'on fait de la propagande ou faire semblant qu'on fait de la dénonce. Parce que comme ça, ça suffit qu'on bouge. S'il y a quelque chose... Si on parle, c'est bien. Dès qu'on parle, on sait qu'il y a quelqu'un qui est engagé. Donc, le fait de faire semblant qu'on est engagé. Et là, par contre, c'est l'image de Berlusconi avec du vin, parce que, bien sûr, c'était les banquets de Berlusconi, avec l'ouvéite, que c'était la maladie qu'il avait dit d'avoir pour ne pas participer au procès. Okay, il ne pouvait pas voir parce qu'il avait ça. Et par contre, on a les films. Je remarquais que Signore e Signori Buonanotte, que c'est un film avec Marcello Mastroianni, donc des années 60, a été même traduit en français. Je pense que même le Divo le Caimano. Je n'ai pas cherché, mais j'imagine. Oui. Voilà. Et c'est tout des. Alors, déjà, dans le film de Mastroianni, il y avait l'image d'un politique qui était pris dans son affaire. Et donc, Mastroianni, qui était le journaliste, lui demandait: alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez poser vos démissions comme ça? Non, absolument pas. Il a dit: ah bon, vous faites bien, parce que comme ça, sinon, vous allez démontrer que vous êtes coupable. Non, je ne vais pas le faire, parce que sinon, je ne peux pas gérer les affaires. Je ne peux pas organiser tout pour que je m'en sorte de cette affaire-là. Il dit: mais vous ne pensez pas à vos électeurs? Si mes électeurs voulaient quelqu'un de bien, n'était pas moi qui allais élire, tout simplement. Donc, et c'est déjà aux années 60 que c'était ça. Puis il dit: bon, c'est vraiment l'histoire de M. Andreotti et Luc Emano, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui cherche quelqu'un qui puisse représenter Berlusconi et n'arrive pas à le trouver. Alors qu'on a de l'autre côté là c'est plus ou moins sérieux, moyen sérieux, alors qu'ici on a vraiment du comique, Qualunque Mente, je ne sais pas si vous le connaissez. Et Monsieur le Président, et encore viva l'Italia avec Bisio. Je vous montre simplement une.
Stavo dicendo, costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, un futuro di pilu e prosperità. Pilu e prosperità, cazzo io!
Alors là, il s'agit d'un homme politique de l'Italie du Sud, de la Sicile, qu'il a de toute façon la même attitude de faire des gens de Forza Italia, pour la plupart, mais après de tous les hommes politiques qui ont fait des écoles, parce que la différence entre Berlusconi et les autres, que Berlusconi était le premier à suivre une école de publicité et de propagande. Et donc, il a fait ça. Et la chose rigolote, il parle bien sûr en moyen sicilien, et il dit le slogan, c'est « Plus femme pour tout le monde ». Et c'est pas vraiment femme, c'est plutôt « Plus chatte pour tout le monde ».« Plus de chatte pour tout le monde ». Et donc, il passe tout le temps et on l'assimile beaucoup à M. Berlusconi, bien sûr, parce qu'il a passé toute sa vie à parler des femmes, à avoir des problèmes avec les femmes. Mais c'est aussi vrai qu'il y a un temps exact pour les scandales. C'est-à-dire que toutes les fois, là, ça revient à la première stratégie, la stratégie de la distraction. C'est vrai que M. Berlusconi parle de ses affaires et fait des scandales sur ses affaires. Mais ces affaires font scandale seulement quand il faut. C'est-à-dire que s'il y a des impôts qu'il faut laisser passer et que le peuple doit être distrait, il fait son divorce, il a sa nana de 15 ans, il trouve d'autres histoires. Si la gauche a une hausse spéciale pour n'importe quel mérite que je ne vois pas à l'instant, mais doit en avoir, il y a le scandale de M. Marazzo. Je ne sais pas si vous savez, c'est le journaliste qui était gouverneur de Lazio, qui était découvert avec des trans. Des homosexuels. Voilà. Et donc, c'était quelque chose qu'on savait depuis longtemps. Ils avaient tous les dossiers, ils l'avaient caché, ils l'ont fait sortir au bon moment, quand ils devaient se présenter, etc. Donc, les scandales sortent comme ça. Et la même chose, c'est pour nous, maintenant avec Salvini. Salvini, il parle toujours de sa famille. Il y a toujours quelque chose avec son ancienne femme, sa femme, sa copine, la fille du ministre Le Tel, etc., etc. Mais toujours, quand il faut distraire, parce que est-ce que quelqu'un connaît quelque chose de ce qui arrive en Italie maintenant? La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas les étrangers. La politique, c'est une politique de haine contre les étrangers. On ne se rend pas compte que les Italiens sont des étrangers, parce qu'ils viennent de tous les côtés. Et il y a que les Pouilles qui ont 800 km de côte, mais l'Italie toute, il y en a beaucoup plus. Donc, tous les peuples ont fait leur passage sur l'Italie. C'est impossible d'imaginer qu'il y a un pays ou une nationalité qui ne fait pas partie du corpus de l'Italie même ou des Italiens. Et de l'autre côté, il y a simplement ces affaires de scandale. Mais alors, quelle est la situation économique, quelle est la situation des écoles, on ne le sait pas. De temps en temps, il y a des informations qui arrivent, et puis il y a quelque chose, des scandales qui servent pour éliminer la peur. Et là, on a encore les dernières liste de ce que j'ai vu. C'est bien sûr sur les sociales. Il y a tous les postes. Par exemple, on a ouvert, comme lui, il ouvre plein de comptes, Salvini, les Italiens, nous, les Italiens, tout le reste. Il y a quelqu'un qui a ouvert un compte, lire les postes de Salvini pour se croire quelqu'un de mieux, pour se prendre pour quelqu'un de mieux. Et donc, il va mettre tous les posts pour dire qu'il fait des choses incroyables. Et puis encore, et là, c'était vraiment sur la fille de Verdini, la nouvelle fiancée. Alors qu'il met, par exemple, qu'il avait écrit avant. En plus, c'est incroyable, parce qu'avant faire de la politique, avant Internet, avant la télé, etc., c'était une façon, c'était sans aucun doute plus simple, parce que les gens pouvaient dire une chose et l'envers sans avoir des traces. Là, il y a des traces. La chose qui a choqué le plus avec Berlusconi, c'est que c'est les premiers qui l'ont enregistré vraiment tout, tous les moments, tous les instants. Elle était capable de dire une chose à l'envers de cette chose-là et de soutenir « j'ai jamais dit ça ». Il a dédouané vraiment le concept possible. Alors que Salvini a fait la même chose, c'est-à-dire il a parlé Fini, Alfano, Verdini, je ne les veux pas, je les trouve des glaces, ils sont des traîtres, et alors il va se fiancer avec la fille de Verdini. Et l'autre, c'est Di Maio. Son père qui est au procès, Renzi, ses parents sous procès, Salvini avait de la jalousie et donc il a cherché son beau-père qui est condamné à 6 ans et 10 mois. Bon, si on voit ça de loin, c'est aussi rigolo. Le problème, c'est quand on est de trop près. Et alors, Rami, c'est l'histoire de l'enfant qui a sauvé. S'il veut le Jussoli, oui. Il faut élire et changer les lois. Il a sauvé ses compagnons, a fait un discours le plus sensé possible. Et donc, moi, je le vote. C'était Erika Orlando. Et en Basilicate gagne un financier qui était évaseur fiscal et le parti qui a volé 49 millions aux Italiens. Donc c'est vraiment juste un petit panorama. En fait, on pourrait en dire plein d'autres choses. Ce qui est clair, c'est que la propagande ne se pose même plus l'objectif de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Parce que la seule chose qui est intéressante, c'est qu'on parle. Parce que de toutes les manières, si on parle d'une manière ou de l'autre, la chose la plus intéressante, c'est qu'on puisse en parler. Moi, j'ai trouvé cette phrase traduite, et semble-t-il, Léon Zitrone. Nous, on croyait que c'était Mussolini qui l'avait dit. C'est-à-dire qu'on en parle bien ou mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. J'ai trouvé que même Oscar Wilde l'avait, donc c'est quelque chose qui est très partagé et que maintenant c'est vraiment l'essentiel de la propagande, si on veut. Et donc, pour l'instant, c'est ça et c'est mes considérations. Je vous remercie.